Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, la seule émission qui fait parler en direct des supporters de Lille et supporters de Lens, et ce même les jours fériés, et même quand les matchs sont le lendemain. Au sommaire ce soir, semaine décisive pour le Racing Club de Lens, les mots ce midi de Francaise en conférence de presse, avant d'affronter demain Toulouse, récent vainqueur de la Coupe de France. A noter aussi que samedi, les Sang et Or recevront Marseille, deuxième de Ligue 1. Marseille qui compte 4 points d'avance aujourd'hui au classement des Artésiens, qui pourraient donc rattraper leur retard en cas de double victoire. Avec sa victoire 3-0 contre Ajaccio, le LOSC s'accroche à l'Europe. Devant Monaco, quatrième, n'est plus qu'à 2 points. Les Monégasques qui seront d'ailleurs les adversaires des Dogs la semaine prochaine. Alors jusqu'où peuvent aller les Lillois? Élément de réponse ce soir. Et puis un peu d'histoire. C'était il y a 90 ans, en 1933, l'Olympique Lillois remportait le premier championnat professionnel de France de football. Un titre qui n'apparaît pourtant pas dans le palmarès actuel du LOSC, qui revendique, pourquoi pas ce titre, une pétition lancée par les supporters, mais ce sera pas facile. On vous expliquera tout ça, notamment avec celui qui est à la base de cette pétition, François Stock, le président des Dogs du Net. Bonsoir François.
Bonsoir.
On va avoir donc aussi les réponses sur ce que pourrait faire le club avec toi, Quentin Leclerc-Lemaître. Bonsoir.
Bonsoir.
Quentin, avocat, spécialiste en droit du sport, et puis nos supporters. On a par exemple Baptiste Cogé, supporter du LOSC. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir.
Et Mohamed Seraoulia, supporter lensois. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Vincent.
Et vous aussi, vous pouvez participer à cette émission grâce au hashtag Nord sur Twitter. On attend évidemment vos messages et puis on vous expliquera aussi à la fin de cette émission comment nous retrouver en podcast sur Spotify. Alors il n'y avait pas de match ce week-end pour les Lensois puisque Toulouse, leur adversaire, affrontait Nantes en finale de Coupe de France samedi. Rencontre remportée assez facilement, hein, 5-1 par les Toulousains que les Sang et Or vont donc affronter demain. Mohamed, je me tourne vers toi. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir affronté un adversaire qui a eu un match et une célébration aussi derrière, est-ce que tu t'attends à une rencontre où les Toulousains seront fatigués ou au final ça risque d'être assez disputé parce qu'ils pratiquent un plutôt beau jeu?
Oui, alors ils pratiquent plutôt un beau jeu, mais je les vois un peu sur l'euphorie de la victoire et je pense qu'ils seront un peu moins présents demain contre Lens. Moi je l'espère.
Les retrouvailles en tout cas avec Philippe Montagnier, l'ancien coach lensois. Lui devrait être quelqu'un qui sait motiver ses hommes face à son ancien club.
Là-dessus, ouais, je pense qu'il n'a pas oublié la façon où il a quitté le club l'année où Lens monte avec le Covid. Mais bon.
À votre avis, si vous étiez à la place de Francaise, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'il faudrait faire tourner les effectifs, sachant qu'on a un match ultra important face à Marseille, ou pour vous, c'est le 11 de départ habituel qui doit être sur la pelouse?
Non, je pense qu'il faut jouer très sérieusement ce match, donc mettre la meilleure équipe possible.
Les deux matchs sont importants. S'ils perdent à Toulouse, le match de Marseille devient beaucoup moins intéressant. Donc les deux matchs nécessitent une équipe au summum de sa forme.
Baptiste, toi qui as une expérience d'entraîneur, on en parlera peut-être un jour.
Ouais, non, mais je pense qu'il faudra mettre l'équipe type pour que Lens gagne ce match et puis se mettre à l'abri, pourquoi pas à la 60e, et à partir de là, pouvoir la chance d'avoir certains changements. Donc pourquoi pas faire un petit peu souffler l'équipe.
En tout cas, ça devrait être un match compliqué. C'est ce qu'expliquait Angelo Fulgini ce midi en conférence de presse. Écoutez.
Bon, ça a été un match compliqué comme tous les week-ends. Bon, d'autant plus qu'ils ont remporté la Coupe de France. Je pense qu'ils vont avoir envie de montrer à leurs supporters qu'ils l'ont mérité. Ils vont vouloir faire un gros match demain. Donc voilà, nous d'être prêts de mettre en place nos principes de jeu et on verra bien, mais c'est sûr que ça va être un match compliqué.
Et donc s'il fallait un pronostic pour toi, Mohamed?
Moi, je dirais 2-0 pour Lens.
2-0 pour Lens.
2-1 pour Lens.
2-1 pour Lens.
Une victoire lensoise. Toulouse n'aura pas la niaque pour aller jusqu'au bout.
3-1 pour Lens.
Ouais, l'unité, donc, Lens, qui devrait donc s'imposer à Toulouse. Ce sera demain soir, coup d'envoi à 21h. Est-ce que on pense déjà, évidemment, à Marseille, à ce match samedi ultra important? Est-ce que pour vous, c'est ce match-là qui va décider de la deuxième place, comme l'affrontement entre Lens et Paris avait finalement décider du sort de la première place de la division?
C'est justement le piège de commencer à penser d'ores et déjà au match de dimanche, parce que voilà, Toulouse, effectivement, peut être fatigué, mais ils seront aussi sur une certaine lancée, une certaine euphorie. Donc il faut faire attention, il ne faudra pas les prendre à la légère. Si Lens le joue sérieusement, ça devrait passer. Mais il faut, step by step, il faut d'abord commencer par Toulouse et penser à Marseille après.
On sent que tu as exactement l'habitude des clubs de Ligue 1, parce que c'est quasiment mot pour mot ce qu'expliquait Francaise ce midi. Écoutez.
On va déjà avoir un match important demain. On va commencer par celui-là, face à une équipe, une très belle équipe. Ceux qui ne le savaient pas, on a eu la confirmation ce week-end. Mais même avant le match de ce week-end, je trouve que c'est une très belle équipe qui fait une très belle saison. Très, très dynamique, beaucoup de qualité. Donc on va déjà essayer de répondre bien présent pour ce premier match de la semaine. Et puis après, on aura le temps de se tourner vers le match de la fin de semaine, mais par étapes.
En tant que Lanchois, Mohamed, tu penses pas du tout à la deuxième place qui serait accessible, ou du moins qui sera ultra importante, là, samedi ?
Ah mais la deuxième place, moi j'y pense tout le temps, et je me dis que... Alors, c'est vrai qu'avant de penser à Marseille, il y a Toulouse, et chaque match que Lens va jouer, maintenant, c'est une finale, et il faut gagner chaque match pour essayer de terminer deuxième.
Il y a une vraie ambition, en tout cas, on ne peut pas le nier, même s'il y a toujours les mots de Francaise qui revient, c'est obligé.
C'est nécessaire, les barrages, la troisième place, c'est toujours très compliqué de se qualifier en Ligue des Champions, et si les Lensois veulent assurer leur présence dans la compétition phare, il faut absolument qu'ils visent la deuxième place.
Et si on regarde, le match a été déjà lancé par les Marseillais, qui eux se sont imposés hier soir. C'est Igor Tudor qui, à la fin de la victoire face à Auxerre, a dit que c'était un match très important. Il se rappelle encore le match aller, un match fantastique, et on se souvient cette victoire 1-0 grâce au but de Pereira da Costa. Ce sera difficile parce qu'ils sont bons, mais on est bons aussi. Les gens vont apprécier tout ça, ça va être du bon football. Ça va être important de gagner cette rencontre. Effectivement, c'est ce qu'on attend aussi de ce genre de match. Donc samedi soir, c'est de voir surtout du spectacle et les trois points, forcément.
Oui, tout à fait. Le spectacle. Quand Lens a été à Paris, même à 10 contre 11, ils ont fourni un super match. Le match contre Monaco, le match peut-être le plus abouti de la saison, bah, ça a été fantastique, et je pense que là, sur cette dynamique-là, contre Marseille, ça peut être un très beau match, quoi.
Et ça peut coller à la philosophie de jeu des équipes qui adorent affronter Lens, ces équipes qui vont chercher, qui sont suivies dans la verticalité.
Ouais.
En tout cas, c'est du spectacle que vous attendez samedi.
Ça peut être, vu la configuration des deux équipes, ça peut être un match très ouvert, et peut-être l'un des matchs de l'année.
Alors, on va aussi dire un mot d'un des hommes forts de l'équipe Lensois cette année, le défenseur Kevin Danso. Il a joué l'intégralité de toutes les rencontres de Ligue 1 cette année, côté de Lens. Il a même marqué un but pour lui, c'était face à 3 au mois de septembre. Il fait le point sur sa belle saison, mais aussi sur son avenir sous la tunique sang et or. C'était avec Jean Baumel.
Je me sens bien ici, c'est une bonne atmosphère, je peux me concentrer en football et tout ça. On a une vraie famille ici, je me sens vraiment bien. Il y a vraiment tout ici, c'est vraiment facile pour progresser, pour faire tout, pas que en foot, mais progresser as a man, as a person. Très important, comme tous les matchs, mais it's coming to the end of the season. C'est le premier challenge pour nous, gagner Toulouse. Après, on a pensé à Marseille, mais avant, c'est Toulouse. Si on gagne, ça va être un grand, grand, grand moment. Pour moi, pour l'instant, je ne pense pas vraiment à ça. Je pense à le prochain match. Parce que si on joue bien, je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe après. Mais je peux contrôler juste le truc si ça se passe maintenant. Après, je vais voir.
Tu le vois rester la saison prochaine, Mohamed, à Lens? En tout cas, il n'a pas l'air d'être sur le départ. Il n'a pas l'air non plus de vouloir rester. Il laisse la porte ouverte.
Voilà, c'est ça. On est bien au club, il y a une bonne ambiance, j'ai beaucoup progressé, mais dans le football, tout va très vite. Voilà, c'est comme ça qu'il termine.
Le mercato, comment vous le voyez côté de Lensois? Est-ce qu'il y aura forcément des départs, même si Ligue des Champions?
Moi, je pense qu'il y aura forcément un départ.
En défense, tu veux dire?
En défense, oui, je pense qu'il y aura un départ.
Vous voyez, bah, du coup, on va en parler. Ils sont trois, Medina, Danso, Grandi. Qui pour vous pourrait être ce départ dans le trio?
Danso. Mais sous réserve qu'il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, parce que, à mon avis, dans sa progression de carrière, aller faire une saison de Ligue des Champions, ça peut être très bénéfique pour partir la saison suivante.
C'est vrai que si Ligue des Champions, les deux premières places pour Lens, je pense qu'ils vont réfléchir à deux fois. Mais
est-ce qu'on peut refuser 60 millions d'euros comme pourrait le mettre un
voilà,
club anglais pour
c'est
un morceau.
C'est après combien on va proposer pour les joueurs et le salaire qui sera proposé derrière quoi.
Mais on aura encore largement le temps de parler mercato pour Lens comme pour Lille puisque d'abord il y a Toulouse, on l'a dit demain soir avant Marseille samedi soir. On se quitte quelques instants, une très courte page de pub et on reviendra ensuite sur la victoire de Lille, plutôt convaincante, la victoire de Lille face à Ajaccio ce week-end. Et vous êtes toujours sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral et dans Cop Nord. Maintenant, on va revenir sur cette victoire 3-0 du LOSC face à Ajaccio. Tous les buts et résumé de la rencontre avec Quentin Gribel.
Face à Ajaccio, le LOSC a trouvé son trio gagnant. 22 minutes de jeu, Zegrova trouve Cabella dans l'axe qui talonne pour André Gomes. Sans contrôle, le Portugais inscrit une superbe frappe. La triplette réitère pour le 2-0. Zegrova lance Cabella et André Gomes signe son premier doublé en Ligue 1. À peine 3 minutes plus tard, Zegrova, toujours lui, sert magnifiquement Bamba qui offre le but du 3-0 à Cabella. Les Dogs sont 5e de Ligue 1 avant leur déplacement à Reims samedi prochain.
Et si on regarde les statistiques, on voit que les Corses ont très peu existé dans cette partie. Lille qui termine le match avec plus de 75% de possession, 750 passes contre 243, 10 tirs à 2, 5 cadrés pour les Lillois contre aucun côté ajaxien. Notez aussi que les Dogs ont tenté 12 centres avec un seul qui a trouvé preneur. Donc les tops et les flops maintenant. Je me tourne d'abord vers toi François, ton top.
Alors je vais citer Zegrova.
Zegrova.
Cabella.
Ouais,
Cabella.
Et André Gomes.
André Gomes, voilà, ils se sont mis un peu d'accord avant. En tout cas, il fallait souligner l'apport des trois joueurs, hein, André Gomes, Rémi Cabella et Edon Zegrova, qui ont vraiment brillé dans cette rencontre. Rémi Cabella, d'ailleurs, qui a été donc doublement plébiscité pour vous. C'est vrai que ça n'a pas été facile de choisir un homme. Pourquoi Cabella ?
Pour moi, il fait un super match, honnêtement, et je m'appuie surtout sur sa remise. Sa remise sur le premier but d'André Gomes, elle vient de nulle part, honnêtement. C'est vrai qu'il en fait deux, mais la première, elle vient de nulle part. Je me dis, mais il a loupé sa passe, et finalement, quand je vois la frappe d'André Gomes, ça relate presque du génie. Donc,
deux passes D et un but.
Même un deuxième refusé. Donc.
Et André Gomes, donc, qui a lui aussi, c'est la frappe d'André Gomes qui amène aussi
le but. Et puis lui, dès qu'il peut s'exprimer, c'est un joueur de classe. Européenne.
Il reste sur 2-3 semaines pourtant plus terne.
C'est qu'on le laisse s'exprimer, on voit qu'il a du ballon.
Et puis donc je me retourne vers toi François.
Zegrova qui depuis plusieurs semaines réussit à diversifier un peu son jeu, à gagner en percussion. Il est à l'origine des 3 buts, donc il mérite en tout cas une partie du trio de flop décerné aux Lillois.
Le top. Vous très exigeant avec Zegrova cette saison, ça se prouve encore une fois. Revenons à Rémi Cabella donc, qui est actuellement à 7 buts et 9 passes décisives. Ça fait de lui le 4e meilleur passeur de Ligue 1 et c'est d'ailleurs ce qu'il préférait souligner. Lui il préfère faire marquer, écoutez.
Rémi, tu préfères marquer ou faire marquer ? C'est pas la même sensation ?
Non, faire marquer. Je pense que pour moi, voilà, c'est mon rôle et aujourd'hui, je suis encore plus content de faire marquer, surtout qu'il y a eu de très beaux buts d'André. Voilà, faut le féliciter parce qu'il a mis de magnifiques buts et c'est pas facile. Donc voilà, je préfère faire marquer que marquer.
C'est un peu un des hommes clés cette saison, Rémi Cabella. Est-ce qu'on peut dire meilleur recrute cet été ?
Oui. Qu'on voit de là où il vient, effectivement, c'est un très joli coup. Et puis, c'est un joueur spectaculaire. On va au stade pour voir ce type de joueur. Donc, ça fait plaisir d'en avoir un au LOSC.
Les passes cachées, de Rémi Cabella, il en fait au moins une par match à chaque fois. On l'a encore vu à la Décathlon Arena. On dit plus c'était Pierre Mauroy. Rémi Cabella, pour vous, là aussi, d'accord avec ce constat de meilleur recrue de l'été ?
Ah oui, je pense. Mais surtout, d'où il vient. C'est vrai qu'on a beaucoup été très susceptibles par rapport à son arrivée. Et c'est vrai qu'il nous a tous fait mentir dès les premiers matchs, donc franchement oui, pour moi c'est le meilleur recrue.
Puis il a une place importante dans le groupe, c'est toujours lui qui vient en avant lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il faut aller défendre les joueurs face aux supporters, lorsqu'il a fallu défendre Mohamed Bayo. Il a vraiment un rôle de capitaine de groupe finalement en parallèle de celui de Joseph Font.
Et si je reste avec toi, François, ton flop sur cette rencontre, pas Zegrova donc.
Non, mais c'est toujours compliqué de donner un flop quand on gagne 3-0 un match qui est aussi abouti. Je vais dire Jonathan David parce qu'il faut bien trouver un.
Hein. Jonathan David aussi.
Jonathan David, pareil. Voilà, Jonathan David. Quoi, moins en réussite et du coup ça se voit quand les trois à côté et derrière brillent.
Exactement.
Ça veut dire qu'il manque, c'est qu'il est pas si à l'aise que ça, malgré ses statistiques très impressionnantes, dans ce rôle de neuf qui pourrait être plus un point de fixation, comme on espérait voir un Mohamed Bayo cette saison à Lille.
Ouais, je pense. Bah, de toute façon, le poste de David avant n'était pas buteur. Après, voilà, il s'est mis au LOSC en tant que buteur. Mais on voit, voilà, à chaque fois qu'il a le ballon, il cherche peut-être un appui, etc. Donc, voilà, c'est vrai qu'on le préfère en 10. Maintenant, voilà, Kabela est là. Je pense qu'en buteur, il finira la saison et partira après.
Et d'ailleurs, s'il fallait parler un peu de gestion de Paulo Fonseca dans cette rencontre, déjà, il y avait des choix forts hein, sur la feuille de match au début de la rencontre. José Fonte sur le banc, là, c'était une question de carton jaune, parce qu'en cas de carton jaune, il était suspendu contre Monaco, donc pas contre Reims, mais la semaine prochaine. Benjamin André n'était pas sur le terrain parce qu'il n'avait pas pu s'entraîner de la semaine à cause de soucis familiaux. Et puis Ismaili, qui était resté lui aussi sur le banc à cause de douleurs. Coaching plutôt risqué de se priver de Fonte, d'André, d'Ismaili, et au final ça paye. C'est ce qu'on retient, c'est qu'il a fait les bons choix finalement, Paulo Fonseca.
Oui, parce que c'est jouer contre Ajaccio, c'était aussi l'occasion de tester la charnière centrale, Alexandro et Yoro, qui est plutôt jeune, mais on risquait pas d'être extrêmement exposé, contrairement au match de Monaco ou au match de Reims, donc c'était une bonne idée. Gudmundsson fait des très bons matchs depuis qu'il est revenu, et c'est vrai que Benjamin André a laissé sa place une doublette André Gomes, Angel Gomes, qui a fait ses preuves depuis ses derniers matchs, donc le risque était mesuré.
Et Alexandro qui s'affirme manifestement dans ce rôle depuis notamment la blessure de Thiago Diallo, je sais que tu voulais souligner peut-être.
Oui, il fait de bons matchs. Alors, c'est pas un très grand technicien, mais en tout cas c'est un vrai dog, il en veut, il a un parcours personnel assez remarquable, et ça doit être un joueur qui va certainement s'inscrire dans la vie lilloise sur les prochaines années.
Et s'il fallait aussi parler donc du coaching cette fois pendant le match, oui. On a Mohamed Bayo qui a 15-12 minutes, je crois, sur le terrain. Adam Ounas qui joue une dizaine de minutes. J'oublie aussi Carlos Baleba qui lui aussi rejoue une dizaine de minutes. Vous avez pensé quoi de leurs entrées respectives?
Leur entrée, bon, c'était plus de la gestion, voilà, pour se montrer un petit peu aussi. Hein. On gagnait 3 euros, donc forcément. Mais j'ai trouvé ça important parce que ça faisait pas longtemps que Paulo Fonseca faisait ses 5 changements. Donc ça, voilà, ça a permis de montrer qu'il voulait faire tourner, inclure un petit peu tout le monde. Parce qu'il y a quand même 3 matchs très importants courant semaine. Donc Reims, Monaco et Marseille. Donc ça va être très important pour notre place européenne. Donc faire tourner, c'est toujours sympa.
Mais sur le terrain, au final, est-ce que vous avez vraiment vu Mohamed Bayo? Est-ce que vous avez vraiment vu Adam Ounas? Ou, comme tu le dis, c'était plus de la gestion humaine qu'un choix sportif?
C'était plus de la gestion. Le match était déjà...
Le match était joué, donc il n'y avait plus trop d'enjeux. Ils ont fait tourner, en fait. On ne peut pas les juger sur cette fin de match.
Mais ça montre malgré tout la qualité de l'effectif lillois. Il y a quand même de la profondeur au niveau du banc. Il y a de la jeunesse, il y a de la relève. Ça s'annonce bien pour l'avenir.
Et puis donc on rappelle rapidement le classement. Donc devant maintenant, Lille peut regarder devant. Il y a que 2 points de retard désormais sur Monaco que Lille affrontera après Reims ce week-end. Des Monégasques qui eux, si on regarde leur fin de saison, risquent d'être assez mouvementés puisque d'abord il y a Angers ce week-end, puis donc Lille, Lyon, Rennes et Toulouse. Est-ce que vous, supporters lillois, vous croyez à cette quatrième place?
C'est possible. Il faut jouer chaque match comme une finale.
Amplement.
Vu les dynamiques, oui.
Moi, j'y crois.
Une quatrième place, donc, peut-être pour le LOSC. Et puis, vite fait, pour parler celle de Lille, déplacement à Reims et Monaco. Lille qui reçoit Marseille et Nantes et qui se déplacera à Troyes le 3 juin prochain pour le dernier match de la saison. Et on va donc parler maintenant de ce qui se passe dans la mairie de Lille. C'est dès demain et jusqu'au 16 mai, vous pourrez découvrir une exposition sur le premier titre du football professionnel français qui a été remporté par l'Olympique Lillois. C'était il y a 90 ans, 1933. Sauf que ce titre n'apparaît absolument pas dans le palmarès du LOSC. Est-ce qu'on peut... Tu as lancé une pétition, François, pour espérer retrouver ce titre. Est-ce que tu y crois?
Oui, il faut. On y croit. Mais c'est surtout pour souligner, finalement, aujourd'hui, le titre de l'Olympique Lillois en 1933 est un peu un titre oublié dans le palmarès du foot français. Alors que c'est le premier titre. Hein. À jamais les premiers, le slogan marseillais peut s'appliquer aux Lillois. C'est nous qui avons été, en tant que supporters lillois, le premier champion de France professionnel de l'histoire du foot. Donc, à l'occasion de ces 90 ans, il y a eu des commémorations. Et il y a surtout un livre qui a été écrit par Damien Bonne et Maxime Pousset, ce qui s'appelle « Lille, capitale du football français », qui relate finalement l'histoire de ce titre et la genèse de l'Olympique Lillois.
Mais pourquoi ce titre, il n'apparaît pas aujourd'hui au palmarès? Comment Lille pourrait le récupérer?
Quand on pose la question, on nous dit « c'est pas le même club ». un club créé en 1944 ne peut pas revendiquer un titre gagné en 1933 par ses glorieux parents.
Parce qu'on rappelle donc le LOSC est une fusion entre deux clubs, mais pourquoi le LOSC n'a pas...
Précisément, le LOSC c'est une fusion de deux clubs. Lille Olympique Sporting Club, Olympique Lillois et Sporting Club Fivois. Et après, c'est toute la question, effectivement, c'était de déterminer la procédure qui a été utilisé lors de cette fusion. Est-ce qu'on a créé ou pas un nouveau club ? Et a priori, des infos qu'on aurait, il y aurait peut-être la création d'un nouveau club. Et donc, on repartirait pas finalement dans la continuité du club de l'Olympique Lillois. Ce qu'aurait été autrement si l'Olympique Lillois avait absorbé le Sporting Club Fivois. Donc là, il faudrait regarder de ce côté-là. Et puis, tout part du numéro d'affiliation. Alors, il n'y a pas une continuité, a priori, dans le numéro d'affiliation, mais... C'est peut-être le même numéro d'affiliation qui aurait été réattribué derrière au LOSC.
Il y aurait un espoir, et donc il faudrait quoi ? Que ce soit le LOSC qui fasse les démarches auprès de la Fédé ?
L'association support, celle qui gère l'amateur, qui est titulaire du numéro d'affiliation, effectivement, qui pourrait tenter une démarche, alors entre guillemets amiable ou contentieuse. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un petit courrier bien écrit à envoyer à la fédération. Ce titre n'est pas en déshérence, hein. il n'est pas oublié.
Il est attribué à l'Olympique Lillois.
À l'Olympique Lillois. Donc le LOSC a 4 titres de champion de France, 46-54 si j'ai pas de bêtises, 2011-2021. Et Lille est 5 fois champion de France.
Tout à fait.
Donc eh bien, on fait un message donc à Patrick Robert, si jamais il le souhaite, Patrick un petit Robert. Courrier. Peut-être un soutien de la Ligue, de la Ligue des Hauts-de-Flandres.
Ça faudra qu'on en discute, oui.
Pourquoi pas. Voilà, le message est passé à Patrick Robert, si jamais vous nous regardez. Un courrier pourrait peut-être ramener un titre de plus au LOSC, sachant que, donc, on l'a dit, hein, Lille qui aurait 4 titres. Un 5e titre, ça changerait quelque chose d'ailleurs pour vous ?
Ça ferait 4 plus que Lens.
C'est ce que j'ai
dit. Tout simplement.
C'est parfait. Voilà. Mais c'est pas tant l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir le célébrer en tant que LOSC. Aujourd'hui, c'est pas le LOSC qui a l'initiative de ces célébrations. C'est la ville de Lille. Ce sont les individus, entre guillemets, qui sont à l'initiative de ça.
Juridiquement, il peut y avoir une discussion. Ceci étant, dans les faits, ce titre appartient au moins pour moitié.
Au moins pour moitié
au LOSC. Et moi qui suis un gamin de FIV, voilà, je consolide la totalité du titre.
Donc il reste 50% à aller rechercher, donc peut-être grâce à un courrier. On jette un coup d'œil au classement avec donc ce match en retard. Lens qui a 4 points de moins que Marseille, deuxième, et compte toujours 5 points de plus que Monaco et 7 de mieux que Lille, toujours 5e avec 59 unités. Et on l'a dit donc au programme ce week-end, réservez votre samedi. À 19h, Lille sera à Reims et à 21h, Lens recevra Marseille. Les autres matchs de haut classement, Nice-Rennes, Angers-Monaco, Lyon-Montpellier et 3-Paris. Et on passe maintenant au résumé de ce week-end de sport avec Arthur Jean.
La tête basse du capitaine Geoffrey Kufour en dit long. Battu par Bordeaux, Valenciennes n'avance pas dans sa lutte pour le maintien. Face au deuxième de Ligue 2, des nordistes sans idée ne cadrent aucune de leurs 4 tentatives durant le premier acte. Candidat à la montée dans l'élite, les Girondins ouvrent le score peu après l'heure de jeu. La Sanassi ne peut rien sur le coup franc de Barbet. Maja double la mise pour les Bordelais. Kufour trouve lui la barre en fin de rencontre. 12e revers de la saison pour Valenciennes, avec toujours 3 points d'avance sur Laval, 17e et premier relégable. En basket, le BCM n'a rien pu faire contre Victor Wembanyama. Auteur de 24 points et 15 rebonds, le prodige français a gâché le bon début de match du BCM. Avant la mi-temps, les Gravelinois tenaient toujours la dragée auto-leader avant de craquer en fin de match. Justin Robinson termine en double-double avec 13 points et 10 passes. Le BCM est toujours 8e et pour l'instant dernier qualifié en play-off. Le Portel assure encore un peu plus son maintien. À 3 matchs de la fin de la saison régulière, le SSM a déroulé contre la lanterne rouge du championnat Fos-sur-Mer. Intenable, le duo Mangin-Ify a permis au Portelois de s'imposer 97-70. 26 points pour le premier, 21 pour le deuxième. Un succès qui permet aux nordistes de dépasser Limoges au classement et de prendre la 13e place. Chez les filles, rencontre cruciale à venir pour l'ESBV-ALM. Ce sont les play-offs qui débutent demain soir à Angers. Le match de lui se déroulera à Villeneuve-d'Ascq le 6 mai prochain.
C'est excellent.
Merci François, Baptiste, Quentin et Mohamed pour cette nouvelle édition. Merci à tous. Merci à Théo Dorangeon à la réalisation de ce nouveau Cop Nord. Et merci à la rédaction de RMC Sport. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine à tous. Salut.